La spéculation en elle-même n'est pas récente. Elle est même née avant le capitalisme industriel, elle est née avec le grand commerce. Par bien des aspects, le rôle d'un commerçant est celui d'un spéculateur. Il achète une marchandise à un bout de la société et la revend à un autre, et joue sur les variations de prix, quelles qu'elles soient, liées à la rareté d'un produit dans une région, liées à une pénurie momentanée dans une autre. Ce rôle a son utilité dans l'économie capitaliste. Il accélère l'écoulement des marchandises. Et pour jouer ce rôle, le commerçant spécule sur la quantité de marchandises qu'il va pouvoir vendre. Au XVIIe siècle, les classes riches de Hollande étaient férues de tulipes. Et comme le commerce de ce petit pays avait pris une ampleur fantastique, ces classes riches avaient de quoi faire des folies. Les tulipes les plus rares, qui étaient atteintes d'un type de virus mutant qui leur donnait des couleurs exceptionnelles et dont la reproduction était quasiment impossible, pouvaient s'échanger contre des sommes incroyables, comme le prix d'un carrosse ou encore 1000 mètres carrés de terrain. Dans les tavernes d'Amsterdam, on négociait durant l'hiver les bulbes de tulipes de l'été suivant. On achetait en hiver, mais on ne payait qu'en été. En 1636, une loi rendit possible l'option d'achat sur les bulbes, et non plus l'obligation d'achat. Les spéculateurs affluèrent, les prix montèrent jusqu'au 6 février 1637, où ils s'effondrèrent, les acheteurs se rendant compte que les prix étaient montés vraiment trop haut pour que quelqu'un se décide réellement à acheter. Il ne s'ensuivit aucune crise de l'économie, car cela toucha un nombre que très restreint de commerçants. Mais cet exemple historique illustre le mécanisme de la spéculation et son caractère de jeu, de pari. Aujourd'hui, la spéculation sur les marchandises existe toujours. La plus ignoble est celle sur les matières premières. Car au caractère parasitaire de la spéculation s'ajoute l'explosion des prix des denrées de première nécessité et leurs conséquences, les crises alimentaires, la famine pour des dizaines, voire des centaines de millions de gens. Il y a aussi la spéculation sur l'immobilier, qui a pris une ampleur hallucinante dans les pays riches, ou encore celle sur les monnaies. Et puis, il y a la spéculation sur les actions des entreprises cotées en bourse, et sur les titres financiers plus ou moins dérivés et toujours plus alambiqués. Cette spéculation est au cœur de la financiarisation de l'économie. Quand des capitalistes introduisent leur entreprise en bourse, ils morcellent la propriété de celle-ci en un certain nombre d'actions. Ils en gardent une bonne partie pour eux et vendent le reste en espérant faire un gros bénéfice pour eux et pour la banque qui les aide à introduire leur entreprise en bourse. Puis les actions passent de main en main, se vendent et s'achètent en fonction de l'offre et de la demande. Leur valeur ne représente pas le capital industriel de l'entreprise. Ce capital a déjà été investi en machines, en matières premières, en salaire. Le seul lien qui rattache le prix d'une action au capital réellement investi dans la production, c'est le taux de profit de l'entreprise. L'action représente un droit sur une partie du profit de l'entreprise. Et un actionnaire s'attend à ce que les actions qu'il a achetées lui rapportent au moins ce qu'on appelle le taux d'intérêt, c'est-à-dire ce que lui rapporterait, le taux d'intérêt moyen, c'est-à-dire ce que lui rapporterait son capital s'il le prêtait à un industriel, par exemple, pour que celui-ci investisse. Initialement, la spéculation boursière avait un rôle utile dans l'économie capitaliste. Elle contribuait à fluidifier le marché des actions, à faire que si un capitaliste cherchait à vendre une partie de ses actions pour récupérer de l'argent et l'investir dans la production, il trouvait toujours des acheteurs. La bourse servait comme une réserve de capital disponible pour la production. Mais depuis 40 ans, la spéculation joue le rôle inverse. En drainant toujours plus les capitaux, elle les détourne de la production. Or, dans la spéculation, aucune richesse ne se crée. Ce que les uns gagnent, les autres le perdent. À ce petit jeu, d'ailleurs, les petits boursicoteurs qui rêvent de faire fortune sont bien plus souvent les payeurs. Spéculer signifie anticiper. Et qui mieux que les monopoles industriels et les grandes banques sont en meilleure situation pour anticiper les variations du marché, voire les provoquer, à la hausse comme à la baisse, car les bons coups peuvent se faire dans les deux sens. Quelles que soient les déclarations théâtrales des politiciens visant les dérives de la finance, sous la pression des grandes banques, les États ont partout libéré la spéculation de toutes les règles qui pouvaient un tant soit peu l'entraver. Les marchés boursiers et financiers ont été déréglementés. Cela signifiait de moins en moins de contrôle par les États et de plus en plus de marge de manœuvre pour les banques. L'afflux du capital, l'afflux croissant du capital vers la bourse, lui a fait atteindre des sommets. Entre 1982 et aujourd'hui, le Dow Jones, par exemple, qui est l'indice de la bourse de New York, par-delà les cracks et les remontées, a été multiplié par environ 14. C'est-à-dire que la valeur boursière des entreprises les plus puissantes a été multipliée en moyenne par 14. Sur cette même période, le produit intérieur brut des États-Unis n'a lui été multiplié que par 5. Et c'est très loin de signifier que les richesses ont été multipliées par 5, parce que le produit intérieur brut est une mesure largement surévaluée de la production de richesses, justement parce qu'il inclut une grande part de spéculation. Quant au pouvoir d'achat de la classe ouvrière américaine, sur cette période, il a carrément reculé. La montée vertigineuse des actions en bourse, ou leur chute, a un côté virtuel. Car quand les prix fluctuent à la hausse ou à la baisse, cela ne signifie pas pour autant qu'il y a eu apport ou retrait d'un capital équivalent à la somme que représentent ces fluctuations. Mais ce côté virtuel n'en rend pas moins la spéculation profondément parasitaire et source de catastrophes économiques, plus dévastatrices même qu'un tremblement de terre. En période d'euphorie spéculative, la bourse draine les capitaux qui devraient être utilisés pour développer les moyens de production. Et derrière les banques qui orchestrent la spéculation, il y a tout le capital de la classe bourgeoise qui veut sa part au jeu de la spéculation. Car s'il y a bien un caractère commun à tous les capitalistes de toutes les époques, c'est la soif de profit. Aujourd'hui, les bonnes affaires passent par la spéculation, alors tous cherchent à en croquer. Il n'y a pas d'un côté les mauvais spéculateurs et de l'autre les bons industriels. Les capitaux de la famille Peugeot, de Liliane Bettencourt, de Bolloré, d'Arnault, de Michelin constituent la base de la spéculation. Et cette spéculation a été la source d'un enrichissement considérable. Un enrichissement considérable de la bourgeoisie. Aux États-Unis, au cours des 30 dernières années, la part des revenus détenus par les 1% les plus riches a doublé, passant de 8 à 16%. Le fameux spéculateur George Soros, aujourd'hui retiré des marchés, qui a dirigé un fonds spéculatif de plusieurs centaines de millions de dollars, s'est vanté d'avoir réalisé, sur une période de 26 ans, de 1969 à 1995, en moyenne 31% de bénéfices par an. Et tous ces gains sont prélevés au bout du compte, sur le seul endroit de la société où la richesse se crée vraiment, c'est-à-dire la production. C'est toujours l'exploitation de la classe ouvrière qui produit le moindre bénéfice. Que ce bénéfice soit du profit industriel, du profit commercial, du profit bancaire, le taux d'intérêt d'un capital investi ou le fruit de la spéculation. Car dans la spéculation, c'est le profit tiré de la production que les spéculateurs jouent, quand ce n'est pas parfois carrément les salaires de leurs employés. Mais la spéculation n'aurait jamais atteint l'ampleur qu'elle a aujourd'hui sans le crédit. Et c'est l'association des deux qui rend les krachs boursiers aussi dévastateurs. L'économie capitaliste a besoin du crédit pour fonctionner. Il y a d'abord le crédit commercial que les capitalistes s'octroient les uns vis-à-vis des autres ou vis-à-vis des consommateurs, qui met de l'huile dans les rouages des échanges marchands. Ce crédit fluidifie la circulation des marchandises, évidemment à condition que les marchandises au bout du compte se vendent. Ce crédit commercial est quasiment de l'argent. Les capitalistes se transmettent les reconnaissances de dette comme de la monnaie. Elle ressemble à la monnaie émise par les États, même si cette dernière peut en plus s'appuyer sur l'autorité du gendarme pour s'imposer. En tout cas, aujourd'hui, la manière de mesurer la masse monétaire globale inclut ce crédit émis par les banques. Le crédit joue également un rôle fondamental pour féconder la production. Il démultiplie la puissance du capital industriel. En empruntant, un industriel peut développer la production bien au-delà de la limite de ses propres capitaux. Comme on l'a déjà vu, c'est depuis plus de 100 ans une action essentielle des banques que de collecter l'argent disponible dans la société pour pouvoir l'orienter vers la production sous forme de prêts à taux d'intérêt. Mais quand les capitalistes ne souhaitent plus intervenir dans la production, ne souhaitent plus l'élargir, alors le crédit alimente avant tout la spéculation et il la démultiplie. Un cercle vicieux s'enclenche alors qui engendre ce qu'on appelle les bulles spéculatives. Le crédit est presque sans limite, car depuis toujours, les banques peuvent prêter plus d'argent qu'elles n'en ont en dépôt. Cela peut même représenter plusieurs fois le montant de ce qu'elles ont. C'était vrai avec les pièces d'or, ça l'est avec la monnaie de papier. Il suffit que la banque puisse avoir suffisamment d'argent en réserve pour rembourser ceux qui viennent retirer leur argent. La seule vraie limite, c'est la faillite. Officiellement, les banques doivent respecter certaines règles qui sont imposées par les États pour éviter justement une défaillance du système bancaire. Là encore, les politiciens aiment dire qu'ils partent en guerre contre la finance de l'ombre, c'est-à-dire cette partie des crédits et de l'endettement qui échappe au contrôle des États. Mais ce ne sont que des phrases creuses. À force de bulles spéculatives et de krachs successifs, l'économie mondiale s'est enfoncée toujours plus dans le cercle vicieux du crédit et de l'endettement, rajoutant à chaque crise une couche de crédit et de dette supplémentaire sans résorber vraiment la couche précédente. Les États ont été des pompiers incendiaires, car sous prétexte d'empêcher le système financier de s'effondrer, à chaque fois, ils l'ont réarmé. Depuis 1971, l'économie a connu de nombreuses bulles spéculatives qui ont fini en krach financier, plus ou moins retentissant. Il y a eu le krach de 1982, quand le Mexique a annoncé qu'il ne pouvait plus payer sa dette. Celui de 87, suite à l'envolée des actions en bourse aux États-Unis. Celui de 97, des pays d'Asie du Sud-Est. Suivi de celui de 98, le krach russe. Celui de 2000, de l'éclatement de la bulle Internet. Celui de 2001, après les attentats du 11 septembre. Et les deux derniers en date, 2007, de l'immobilier américain, et 2008, dû à la faillite de la banque Lehman Brothers. À chaque fois, les États et leurs organismes monétaires, les banques centrales, ont prêté toujours plus d'argent aux banques, en créant de la monnaie à partir de rien. C'est un peu comme si, à la sortie de chaque krach financier, les banques imposaient de rejouer à qui tout double. Et comme si, à chaque fois, les États acceptaient de doubler la mise des joueurs. Tout cet argent déversé a aggravé l'enchevêtrement de crédits et de dettes qui gangrènent toute l'économie mondiale, lui donnant une ampleur irréelle. Toute cette monnaie n'a pour l'instant pas entraîné d'inflation galopante, car elle est aspirée dans la spéculation, mais elle n'en est pas moins menaçante. Car ces quantités toujours croissantes de dollars, d'euros, de livres ou de yens doivent bien être placées quelque part. Et ce quelque part, c'est une nouvelle bulle spéculative qui éclatera inévitablement, avec à chaque fois le risque de voir l'économie s'effondrer pour de bon. C'est une fuite en avant dont on ne voit pas d'autres issues qu'une issue catastrophique. D'autant plus qu'à la base de toute cette masse monétaire et toute cette masse de crédits et de dettes, il y a l'État et l'endettement public. Cet endettement s'est constitué de mille manières, par des allègements de cotisations patronales, par des subventions en tout genre, ou par des commandes d'État, comme dans l'armement. Chaque année, en France, par exemple, ce sont au bas mot des dizaines de milliards d'euros qui subventionnent les profits privés. Les chiffres publiés, par exemple par des journaux patronaux, parlent même d'une centaine de milliards d'euros par an. Mais il est impossible de faire réellement le tour de toutes les aides étatiques, des cadeaux de l'État central, jusqu'à ceux des collectivités régionales ou départementales, comme la construction d'une route, par exemple, pour une entreprise, ou autres subventions. Ces subventions incessantes ont contribué à ce que la dette de l'État atteigne des sommets. Cette dette des États a une signification particulière. Si une action représente un avoir sur les profits à venir d'une entreprise, la dette de l'État est un avoir sur les revenus de l'État, c'est-à-dire les impôts. Le capital financier vient directement prélever sa part sur les finances publiques. Depuis le début de son histoire, le capitalisme se développe sur le sang et la boue, comme disait Marx. Mais lors de son essor, il représentait le progrès en face des autres classes sociales dominantes. Il développait les forces productives à un rythme spectaculaire. Aujourd'hui, son parasitisme est tel qu'il vit constamment sous la perfusion de l'État. Ses placements sont avant tout orientés pour mettre la main sur de la richesse sociale qui existe déjà. Et quand les chantres de ce système évoquent sans honte le risque des entrepreneurs, quel anachronisme. De quel risque parle-t-il? Le moindre revers des capitalistes, ce sont les travailleurs qui le payent, avec leur salaire ou leur emploi. Et l'État, qui prend les pertes à son compte, que ce soit avec la finance ou avec l'industrie. Si l'économie capitaliste était sénile en 1916, comme disait Lénine, alors elle est devenue complètement grabataire. La dernière phase de la crise, qui a éclaté en 2008, a concentré tous les aspects que nous venons de voir et les a aggravés. Encore une fois, c'est la médication administrée à l'économie par les États suite au krach précédent qui a préparé le krach de 2008. Dans la foulée du krach boursier dit des nouvelles technologies, au début des années 2000, les banques centrales des pays riches, et en premier lieu celles des États-Unis, ont eu une politique de crédit facile, en abaissant très bas leur taux d'intérêt. Cette politique a relancé la spéculation, et cette fois-ci sur l'immobilier. Partant de la pénurie de logements dans quasiment toutes les grandes villes du monde, un nouvel échafaudage de dettes et de spéculation s'est mis en place. À partir de 2002, les prix de l'immobilier sont montés en flèche, que ce soit ceux des vieux bâtiments ou ceux des nouveaux à construire. Dans de nombreuses villes des États-Unis, mais aussi d'Europe, comme à Paris, les prix ont été multipliés par deux en à peine 5 ans. Parallèlement, les emprunts immobiliers ont eux aussi été multipliés par deux aux États-Unis sur la même période. Il y eut entre autres les fameux subprimes, ces prêts aux particuliers concédés parfois à des gens avec très peu de ressources et qui étaient de véritables pièges pour ces ménages modestes et une bombe à retardement pour toute l'économie. Les banques se rassuraient contre les éventuels impayés de ces familles en se disant qu'elles confisqueraient les logements dont le prix était élevé à cause de la spéculation. Cette phase spéculative a développé une complexification financière jamais vue, au point que le vieux spéculateur chevronné, George Soros, pouvait avouer ne plus rien comprendre à tous ces produits dérivés. C'est un peu comme si, au PMU, en plus de miser sur le tiercé, on s'était mis à parier sur le nombre de gagnants, leur âge, ou encore à miser sur le risque que le PMU fasse faillite. Lors d'une audition des financiers par des parlementaires américains, et cela après la crise, un député se serait écrié « Ce n'était pas Wall Street, c'était Las Vegas ». Et un connaisseur de la capitale du jeu lui aurait répondu « Au moins chez nous, il y a des règles ». Par l'intermédiaire de tous ces produits financiers dérivés, les dettes liées à l'immobilier américain se sont répandues dans toute la finance mondiale. Ces produits se sont vendus comme des petits pains, car ils promettaient de juteux bénéfices. L'emballage était, paraît-il, tellement obscur que les acheteurs ne comprenaient pas vraiment ce qu'ils achetaient. Mais ils s'en fichaient, car on leur garantissait des gains. Alors, quand le marché de l'immobilier s'est retourné, il a ébranlé toute la finance mondiale, qui, consciemment ou non, les produits financiers étant tellement opaques, se gavaient des gains spéculatifs liés à l'immobilier américain. Tout s'est déclenché à la fin de l'année 2006. Quand des ménages ouvriers se sont fait expulser parce qu'ils ne pouvaient plus assumer les traites de leur crédit immobilier, parce que, par exemple, un membre de leur famille venait de perdre son emploi. Alors leurs logements sont revenus sur le marché, augmentant l'offre et faisant baisser les prix. Trop de logements avaient été construits par rapport à la capacité d'absorption du marché. Et comme cette capacité d'absorption avait été dopée par le crédit, l'ampleur de la crise de surproduction, comparativement au marché solvable, fut considérable. À l'été 2007, la majorité des titres, qui étaient censés rapporter beaucoup et être extrêmement convoités, n'ont plus rien valu du tout. La chaîne de l'endettement a commencé à se transformer en une chaîne de faillite. Et les sommes en jeu étaient telles que des mastodontes financiers ont été touchés mortellement. C'est ce qui est arrivé à une des plus grandes banques du monde à l'époque, la banque américaine Lehman Brothers. La faillite de cette banque, à l'automne 2008, a brutalement amplifié la panique qui a gagné toutes les places boursières. En 10 jours, la bourse de Wall Street s'est effondrée de plus de 20%. Et surtout, le système financier international est quasiment tombé dans le coma. Toutes les grandes banques se sont d'un seul coup méfiées les unes des autres. Aucune ne voulait prendre le moindre risque de prêter à une autre. Et stopper ce marché interbancaire international, c'était en fait stopper quasiment toute transaction financière, couper l'irrigation de capitaux vital à toute l'économie. Même les petits commerçants eurent parfois du mal, à ce moment-là, à trouver le petit crédit relais qui leur permettait d'habitude de continuer d'un mois sur l'autre. Alors encore une fois, les États et les banques centrales, ont stoppé la dégringolade en réinjectant des sommes faramineuses dans la finance et dans l'économie. Cela n'a pas empêché la crise financière de se propager et de se prolonger en une crise économique bien réelle. Le commerce international s'est effondré et les faillites d'entreprises se sont enchaînées. Cet affaissement de l'économie, combiné à l'aide financière fournie par les États pour soutenir la finance, a contribué en retour à gonfler la dette publique. Car pour soutenir les profits, les États sont à nouveau intervenus à coups de dégrèvements fiscaux et de subventions à l'industrie. La dette privée se transformait une fois de plus en dette publique. Mais ce coup-ci à des niveaux jamais atteints. Quant aux couches populaires, les États les ont laissés crever. Aux États-Unis, plus de 1,6 million de foyers ont été expulsés. Et les expulseurs ne se sont pas trop embarrassés de la loi, voulant récupérer au plus vite les logements pour les revendre. Le chômage a explosé partout dans le monde. Du côté de la finance, la réplique au tremblement de terre de 2008 n'a pas tardé à venir. L'argent déversé par les banques centrales au système financier est en grande partie retourné en prêt aux États. En effet, suite à la panique financière, les banques cherchaient des placements sûrs. Et dans cette économie en crise généralisée, les organismes censés être les plus sûrs et les plus solvables étaient les États. Les grandes banques privées mondiales ont donc prêté aux États les plus riches. Et dans la zone euro, qui apparaissait à ce moment-là relativement homogène, les placements se sont répartis entre tous les États de la zone euro. En même temps, les budgets des États étaient lourdement atteints par la crise et leur endettement s'était considérablement accru. C'est dans ce contexte que fin 2009, un nouveau gouvernement grec, de gauche, annonça que le déficit de son État était deux fois plus important que prévu, faisant paniquer ses créanciers. La réponse de la finance a été de fuir les emprunts grecs et de ne concéder de nouveaux prêts qu'à des taux très élevés. L'État grec s'est retrouvé pris dans la spirale du surendettement, où pour pouvoir rembourser un créancier, il faut s'endetter auprès d'un autre à un taux toujours plus élevé. Et cette situation a été aggravée par la spéculation. Ce n'est pas la première fois qu'un État se retrouvait au bord de la faillite, mais ce coup-ci, cela pouvait avoir des répercussions sur toute l'économie mondiale. Car en spéculant sur la dette des différents États de la zone euro, les financiers mettaient à l'épreuve la cohésion de la zone euro. Les États les moins menacés par la spéculation accepteraient-ils de payer pour les autres ? Et en trouvant le moyen de spéculer à l'intérieur d'une même zone monétaire, la finance risquait de la faire imploser. Or, ce marché européen, avec sa monnaie unique, constitué laborieusement au fil de décennies, après d'innombrables tractations entre États européens, est devenu le cadre de développement des plus gros trusts du continent. Ils s'y sont adaptés. Ils produisent et vendent désormais à l'échelle européenne. Voir sauter l'euro représentait et représente toujours un danger considérable pour l'économie européenne et même mondiale. Les États ont donc été tiraillés entre la finance, qui réclamait son dû, et la nécessité de sauver l'euro. Le compromis s'est fait sur le dos de la population grecque, qui a vu le chômage monter à près de 25%, les salaires fondre d'un tiers en moyenne, et le niveau de vie faire un véritable bond en arrière. Le système de santé a presque disparu pour les plus pauvres. Aujourd'hui, des personnes atteintes de maladies graves n'ont plus accès à aucun soin. Quoi qu'en disent les chefs d'État européens, rien n'est réglé. Et ces mêmes chefs d'État ont constamment les yeux rivés sur les taux d'intérêt auxquels ils doivent emprunter, craignant que, suite à la moindre annonce, l'emballement spéculatif reparte. Car si la spéculation sur la dette des États européens s'est temporairement apaisée, c'est parce que la Banque centrale européenne a annoncé qu'elle rachèterait sans limite les dettes émises par les États visés par la spéculation, comme le Portugal, l'Espagne et l'Italie, et cela en contrepartie de plans d'austérité drastiques. C'est encore une fois une nouvelle manière d'inonder l'économie de liquidités. Aux États-Unis, la Banque centrale américaine a exactement la même politique. Elle a annoncé qu'elle rachèterait chaque mois pour 85 milliards de dollars de dettes de l'État américain ou de crédits immobiliers pourris. Ce qui revient là aussi à injecter encore de l'argent dans les circuits financiers. Depuis 2008, la quantité totale de monnaie émise par la Banque centrale américaine a été multipliée par plus de 3. Or, comme au début du capitalisme, l'argent ne rapporte que s'il est placé. Et ces sommes toujours plus considérables doivent être placées quelque part. En attendant la prochaine bulle spéculative, les capitalistes se sont même bousculés pour prêter aux États qui leur semblaient les moins mal en point. Et au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Malgré leur endettement astronomique, les États-Unis ou l'Allemagne apparaissent comme des havres de paix pour les capitaux. Même l'État français a pu emprunter il y a quelques mois à des taux négatifs. C'est-à-dire que certaines banques ont été disposées à payer un intérêt à l'État français pour lui prêter de l'argent. Cela révèle en fait la très grande fragilité du système financier. Les capitalistes ne savent absolument pas comment résoudre les problèmes fondamentaux de leur économie. Mais ils ne perdent pas pour autant leurs réflexes. En tant que financiers, ils veulent avoir l'assurance d'être remboursés et font pression sur les États pour que ceux-ci mettent en place des plans d'austérité. La férocité de ces plans a abouti parfois non à la baisse de l'endettement des États, mais au contraire à leur accroissement. C'est pour cela qu'on a entendu plusieurs économistes dire récemment que les plans d'austérité étaient une impasse. En réalité, ils ne font qu'exprimer que même le créancier le plus vorace sait qu'il faut que son débiteur reste en vie si elle veut être remboursée. Ensuite, les mêmes capitalistes, en tant qu'industriels, cherchent à récupérer sur les salaires ce qu'ils ne peuvent plus attendre de l'extension de leur marché. Ils veulent accroître l'exploitation, augmenter la plus-value tirée sur le dos des travailleurs. Alors, au nom de la concurrence internationale, représentants patronaux, politiciens, mais aussi journalistes, entonnent tous le même refrain sur la compétitivité et se plaignent de ce qu'ils appellent les surcapacités. C'est la signification de tous les plans de licenciement qui s'enchaînent et la volonté du patronat de faire sauter les contraintes sur les contrats de travail, de remettre en cause toujours un peu plus le peu de lois qui protègent les travailleurs. En faisant ça, ils aggravent eux-mêmes la crise. Car en transformant des salariés en chômeurs, par dizaines et centaines de milliers, ils contribuent eux-mêmes à rétrécir leur marché. Ils démolissent eux-mêmes leur propre économie. Pour reprendre la phrase de Marx, la raison dernière de toutes les véritables crises reste toujours la pauvreté et la limite imposée à la consommation des masses. Cette contradiction fondamentale, le capitalisme la porte en lui depuis 200 ans. Mais au XIXe siècle, les crises avaient un rôle régulateur et elles débouchaient sur une nouvelle phase d'expansion. Avec la domination des monopoles et la financiarisation, cette régulation n'existe plus. L'économie ne sort pas du marasme, elle ne fait qu'accumuler les contradictions explosives. Alors face à cela, les réformistes réclament plus de réglementation. Ils se lamentent devant l'anarchie du système financier et leur attitude revient à prier la bourgeoisie pour un retour vers le capitalisme réglementé d'avant les années 70, comme une sorte de paradis perdu. Mais d'où venait ce capitalisme réglementé, corseté de l'après-guerre ? Il était l'héritage des conséquences dévastatrices de la crise de 1929 et de la Deuxième Guerre mondiale. Et toutes les réglementations qui ont été alors mises en place avaient pour objectif de permettre aux trusts de se réorganiser et d'asseoir à nouveau leurs profits. Et quand le corset des réglementations leur est devenu inutile et même gênant, précisément au moment de l'essor de la phase de financiarisation, ils l'ont arraché. La dernière crise de 2008 n'a pas apporté plus de réglementations, contrairement à toutes les déclarations des Obama, Sarkozy et de leurs successeurs. Le capital financier veut plus que jamais avoir les coudées franches et les États lui obéissent. La dernière loi de séparation des activités bancaires promise par Hollande est une caricature. Le PDG de la Société Générale a lui-même avoué qu'elle n'entraînerait qu'une séparation de seulement 1,5% du total de ses activités. Et la responsable du projet de loi, Karine Berger, députée socialiste, a constaté elle-même que les banquiers, je la cite, n'étaient pas réellement gênés par ce projet de loi. Il en est de même des politiques dites de relance que le patronat et les politiciens peuvent avoir à la bouche parfois. En fait, Il s'agit une fois de plus que l'État vienne soutenir les profits privés avec l'argent public. L'exemple de la prime à la casse que le gouvernement Sarkozy a mis en place en 2009 est édifiant. Les constructeurs automobiles se sont gorgés de bénéfices et à peine 3 ans après, ils annoncent des attaques brutales contre les salariés. 11 000 suppressions d'emplois chez PSA et plus de 8 000 chez Renault. En réalité, utiliser les moyens de production pour répondre aux besoins de la population, construire des logements bon marché et modernes, développer les transports, mettre des moyens importants dans la santé et l'éducation, cette politique ne pourra se réaliser que si les couches populaires l'imposent à la bourgeoisie. Ce ne sera que sous la contrainte que celle-ci acceptera d'utiliser ses moyens de production ainsi. Et en réalité, il n'y a qu'une révolution prolétarienne qui le fera. Toutes les prétendues politiques alternatives ne sont que des fausses pistes et même des diversions. Proposer ces politiques aux travailleurs ou bien relève d'une naïveté déconcertante ou bien c'est chercher consciemment à les duper. Face à l'aggravation de la crise, le seul programme qui vaille pour les couches populaires, pour l'immédiat, c'est de sauver leur peau, pour ne pas sombrer dans la misère, en contraignant la bourgeoisie à payer elle-même les pots cassés pour son système économique. Cela signifie imposer l'interdiction de tous les licenciements, la répartition du travail entre tous, ainsi que l'échelle mobile des salaires pour préserver le pouvoir d'achat. Mais à un autre niveau, cette crise économique et le mode de fonctionnement toujours plus parasitaire du capitalisme montrent que cette organisation sociale est largement arrivée au bout du rouleau. En condamnant toujours plus de travailleurs à l'inactivité, en se privant de compétences de dizaines, de centaines de millions de gens, en bridant le développement des forces productives, c'est un gâchis immense dont cette économie est responsable. En utilisant les compétences de tous, ne serait-ce qu'avec les moyens techniques qui existent déjà, mais en les utilisant dans le but de répondre aux besoins d'immenses majorités, le travail humain pourrait être rendu infiniment plus utile et même infiniment plus efficace. Et cette haute productivité pourrait permettre à tous les êtres humains d'avoir une vie riche et de participer pleinement à la société, à ses décisions, à ses débats. Comme l'a écrit Trotsky à propos de sa vision de l'avenir communiste, je le cite, toutes les sphères de la vie intéresseront chacun et tous. Les hommes se diviseront en parties sur la question d'un nouveau canal géant ou la répartition d'oasis dans le Sahara, sur la régulation du climat, sur un nouveau théâtre, sur une hypothèse chimique, sur des écoles concurrentes en musique, sur le meilleur système des sports. Voilà le type de société dont l'humanité pourrait être capable. Malgré toutes ces contradictions, le capitalisme ne s'effondrera pas de lui-même. Le changement social ne pourra être que l'acte conscient de centaines de millions d'exploités quand ils se décideront à prendre en main leur destinée. Et c'est cette option communiste révolutionnaire que nous défendons, celle de renverser le capitalisme. La dirigeante communiste révolutionnaire allemande, Rosa Luxembourg, avait résumé l'alternative qui se présentait à l'humanité par la formule « socialisme ou barbarie ». Après la crise de 1929, la barbarie prit le visage du fascisme, et pas qu'en Allemagne, et mena à la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, les contradictions de cette société peuvent très bien mener à des catastrophes, plus dévastatrices encore, compte tenu des moyens techniques actuels. Mais nous ne sommes pas des diseuses de bonnes aventures. Quelle que soit l'évolution de la crise, même si l'économie se redressait, au prix, pourrait-on dire, simplement d'un gâchis immense de richesses et de capacités de production, nous défendrons l'idée qu'il est plus que temps que cette économie injuste et délirante soit remplacée par une organisation économique rationnelle, fondée sur la propriété collective des moyens de production et le progrès scientifique, c'est-à-dire la transformation communiste de la société.